présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Flore et Émile s'entendent bien, comme frères et sœurs. Un jour, elle lui téléphone pour l'inviter à dîner chez elle. « C'est pour te remercier pour tout, et je veux te présenter mon amoureux. »« Je ne sais. Si, accepte. Ce sera très simple, et nous ne serons qu'entre nous. »« Alors, c'est oui, demain, 20h chez moi. »« Oui, Ne sois pas intimidé. Il est très gentil, mon ami. Et le lendemain, à 20h, il sonne chez les Hautebord, qui habite une villa du côté de Charbonnières, au fond d'un parc, une grande maison du 19e de 3 étages. Il a un bouquet de fleurs. C'est Flore qui lui a ouvert. Elle porte une robe noire toute simple. Merci d'être venu. Entre. Il entre. Et elle ferme la porte. Elle prend les fleurs. Mais il ne fallait pas. L'embrasse sur la joue. Et le guide dans un grand couloir. Puis ouvre une porte. C'est le salon. La pièce est vaste, meublée Louis XV. Il est assis dans un grand fauteuil qui se lève à l'entrée d'Émile. Un jeune homme, grand, mince, dans les 22 ans, cheveux blonds, visage agréable, beau. Il porte un costume marine. Flore fait les présentations. Tu présentes Marc. Marc, Émile. Ils se disent bonjour. Elle les fait asseoir sur des fauteuils, l'un en face de l'autre. Leur demande, vous désirez boire quelque chose? Bourbon? Ils disent oui. Elle les serre et se serre. Puis s'assoit à côté de Marc. Elle dit, Marc est passionné de botanique. Oui, c'est vrai, je suis très sensible à la nature. Et vous? Moi, c'est la littérature et le cinéma aussi. Ah, vous êtes un peu artiste. Pas tout à fait, puisque je n'ai rien fait. Marc lui dit, moi non plus d'ailleurs. De toute façon, nos familles font tout pour qu'on ne fasse rien. Comme cela, en temps voulu, nous serons sous leur coupe et nous ferons ce qu'ils ont décidé pour nous avant notre naissance. Ils ont même prévu notre vie privée. Surtout, l'amour doit être banni. Cela dérange. Émile dit, « Et ceux, par goût obligation, ne peuvent vivre comme tout le monde. » Marc lui dit, « On les enferme. » Les asiles sont faits pour cela. Émile dit, il ne nous reste plus qu'à mourir. Même pas, car notre éducation est faite de telle façon qu'on aura toujours son suicide. Flore les regarde tous deux et dit, vous n'êtes pas gays tous les deux. Allons à la salle à manger, je vous ai préparé un petit dîner. Ils se lèvent et sortent de la pièce. Après le repas, qui s'est Ils sont retournés au salon. Flore a mis de la musique et a tenu à faire danser Émile. Je ne sais pas danser. Mais si, ça n'a pas d'importance. Allez, venez. Elle se lève et se laisse guider. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, il se laisse guider par la musique et fait des... Sans s'en garder, ils dansent tous les trois, ils ont la chaud. Il sort sa cravate et déboutonne sa chemise. Tout à coup, tombe à terre la croix. Émile s'arrête net, devient pâle comme la mort. Marc la ramasse, la regarde. Elle est belle cette croix, la lui tend. Celle de ta communion? Émile la met à son cou. Non, un cadeau d'un ami. Émile, d'un coup triste, retourne s'asseoir. Les autres en font autant. Marc dit, il est mort. C'est le soir où je devais partir vivre avec lui. C'était la seule personne qui pouvait m'aider à sortir du cocon de ma famille. La seule. Il regarde sa montre et dit, je dois partir. Il est juste le temps que je prenne le car. Flore lui dit, attends, Marc va te raccompagner. Je ne veux pas déranger. Marc lui dit, tu rigoles? Ils se lèvent tous les trois. Marc a accompagné jusqu'à l'entrée de l'immeuble des parents d'Émile. Émile, avant de sortir de voiture, merci, et s'apprête à ouvrir la portière. Marc lui met la main sur le bras, attends, et lui donne un long baiser sur les lèvres. Pour que ça te porte chance. Tu es un type formidable, tu sais. Je vais virer ma cutie. Je serai avec toi. Allez, sors maintenant. À bientôt. Si tu ne dis rien à Flore, Émile lui dit. Oui, à bientôt. Merci. Et il sort de voiture. Avec Flore, Émile se promène sur les quais. Il passe devant un jeune homme qui est assis sur un banc, de taille moyenne, mince, les cheveux noirs qui ondulent, peau très blanche, un visage sympathique. Il est habillé d'un jean, d'un blouson de cuir. Lorsque Émile passe devant le jeune lui dit « Salut, ça va ?»« Oui ?» Tu t'assois 5 minutes avec moi ? Émile s'assoit à côté de lui. Moi c'est Gérard et toi ? Émile. Il n'y a pas grand monde hein, ce soir. Enfin, c'est comme ça. Tu cherches quelqu'un ? Émile hésite. Mais le jeune a l'air sympathique. Oui ? Si tu veux, on peut aller quelque part. Où ? Tu ne connais pas un coin ? Moi aussi, mais c'est loin. Hein? Ma chère Lan, ça va ? Émile regarde sa montre. Ça va. Le jeune se lève. Il le suit. Trajet ne se parle pas, car il y a du monde dans le car. Émile est un poète qui aime malgré tout. Voilà, ils sont arrivés. Ils sont arrivés au de Gerland. Le jeune s'arrête devant l'entrée d'un immeuble Jean HLM 920. Il dit, on va dans la cave. Ça me sert de garage en même temps pour ma mobilette. Parrain habite au troisième et en ce moment il regarde la télé. On risque rien, il n'y a pas de concierge. Et puis, nous fermerons à clé dans la cave. Gérard va ouvrir la porte de l'allée. Le suit. Il a l'air tellement simple et sympathique. Il n'a pas peur. Au fond de l'allée, il ouvre une porte en bois. Ils sont entrés. Ça donne directement sur les escaliers de la cave. Ils descendent, longent un couloir. Gérard dit, ne crains rien, il ne vient jamais personne, surtout pas à cet heure-là. Il va ouvrir une porte de cave en bois. Il fait sombre, Émile ne voit plus Gérard, qui lui dit, entre. Gérard ferme la porte à clé. L'essence, le cambouis, l'humidité. Émile n'ose pas bouger. Gérard lui prend la main et l'éloigne un peu de la porte. On n'y voit rien, c'est le noir complet. Émile tend les mains. Il sent, touche la poitrine de Gérard, qui un d'un coup se plaque contre lui et lui dit « Caresse-moi !» Tu es grand, touche, Émile, sans le corps de Gérard plaqué contre lui. Avec ses mains, il lui touche le dos, enfonce sa tête dans ses cheveux. Gérard lui dit, attends, attends. Il se dégage un peu, Émile entend du bruit. Aussi. Puis, Émile sent la chaleur du corps de Gérard. Gérard lui prend la main, la met sur ses fesses. Émile sent une chaleur, une douceur extraordinaire. Caresse-moi les fesses. Émile, de ses deux mains, lui caresse les fesses. Il sent qu'elles sont douces et bien pleines. Gérard souffle. Gémit un peu. Puis, Gérard lui dit, baisse-toi et suce-moi. Émile hésite, il ne l'a jamais fait. Baisse-toi, n'aie pas peur. Gérard se baisse. Il sent contre son visage la verge raide et chaude de Gérard. Il hésite un peu,
et la met dans sa bouche. Gérard l'aide et fait le mouvement. Il prend les mains d'Émile et les met sur ses fesses. Émile est en sueur. La douceur de cette peau, son odeur, l'impression étrange qui donne du plaisir à Gérard. Gérard tremble de toutes ses cuisses. Gérard sort de la bouche le sexe et jouit. À terre, Émile a joui dans sa culotte. Se nettoie avec un mouchoir. Puis se plaque contre Émile, l'embrasse sur les lèvres et lui dit merci. Ensuite, il va ouvrir la cave. Sorti de la cave, Gérard lui dit « Si tu veux, on se revoit. Oui, je veux bien. Où ? Ici, tous les samedis, 20h, devant l'immeuble. D'accord. Ciao. » Et il monte les escaliers. Émile sort de l'allée. Dehors, un petit air vent frais, je fais du bien. Il regarde son pantalon, voit la braguette, une petite tache blanche. Mais c'est pas grave, il est content. Il se dit que peut-être à tort, que pour la première fois, il vient d'avoir un rapport physique avec quelqu'un. Ils vont se revoir. Il est gentil, pas mal du tout. Et tout de même, c'est mieux que de se masturber tout seul dans son coin. Décide de rentrer à pied. Vers les 20h, devant la porte de l'immeuble. que la laisse est ouverte, c'est Gérard. Salut, bonjour. Et il le fait rentrer. Et le guide. Ce n'est que câlinerie et plaisir physique. Gérard joue au petit garçon. Mais une fois sorti de la cave, il redevient normal. De temps en temps, il s'assoit sur les marches des escaliers pour parler. Mon père est marchand de légumes sur les marchés. Le samedi soir, il prépare le marché du dimanche. Il y a juste ma mère à la maison. Elle est bien ma mère. Elle ne dit jamais rien. Et toi? Moi, c'est plutôt le contraire. J'ai des parents très sévères. Elle parle de choses et d'autres. Émile voit que c'est un garçon sage et calme, sans histoire. Des fois, ils font le pâté de maison pour se dégourdir. Gérard est heureux de vivre. Il rit de tout, court, parle. C'est vraiment un brave garçon. Gérard parle de choses et d'autres. Émile voit que c'est un brave garçon, sage et calme, sans histoire. Des fois, ils font le tour du pâté de maison pour se dégourdir. Gérard est heureux de vivre. Il vit tout le temps, court, parle. C'est vraiment un brave garçon. Il vit l'instant. Dans la cave, Émile ne sent plus l'odeur, mais seulement la chaleur de Gérard. Il aime le toucher. Quelquefois, il se sent honteux, car il ne l'aime pas vraiment et a l'impression de profiter de lui. Il se demande aussi si Gérard l'aime ou comment il l'aime. Dans la cave, il lui dit bien qu'il l'aime, mais l'aime-t-il vraiment? Puis, au fur et à mesure des jours, ou plutôt des semaines, puisqu'il se voit qu'une fois par semaine, il s'aperçoit que Gérard ne se pose pas de questions, alors lui non plus, et se dit que Gérard est comme un oiseau qui vit l'instant à fond. Il se dit que c'est peut-être cela le bonheur. Thank you. samedi soir, alors qu'il entre chez lui à pied, tout à coup, un orage éclate d'une telle violence qu'il est obligé de s'abriter dans une vieille allée. Par chance, la porte était ouverte. Il reste un moment devant la porte, puis le vent, la pluie sont tellement forts qu'il est obligé de s'éloigner et de fermer la porte. Là, il entend derrière lui une porte qui s'ouvre. Il se retourne et voit, surpris et ébloui, un jeune homme de taille moyenne, mince, habillé d'une veste et d'un pantalon de petites rayures bleues et blancs. Il porte sur la tête une espèce de toque en tissu blanc d'où dépassent des cheveux châtains. Le visage osseux, rieur, sympathique, jeune, mais pas vraiment beau. Son visage a une fine couche de blanc. Il tient sa cigarette à la main. Ses mains aussi ont une fine couche blanche. Il dit à Émile surpris, « Il fait beau, hein ?» Émile tout trempé rit et dit, « Oui !» Il rit tous deux. Le jeune lui dit, « Je suis pâtissier ici. J'ai rangé mon sac de farine dans la buanderie. » Émile encore et lui, « Moi, je suis venu m'abriter de l'orage. Ils habitaient loin ?» Pas vraiment. Moi, je suis de Vienne. Je viens à Lyon tous les jours. Mais j'aimerais bien trouver une chambre à Lyon. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je suis étudiant. Le jeune s'est assis sur les marches des escaliers. Émile, après avoir hésité un peu, va s'asseoir à ses côtés. Le jeune fume une cigarette. Émile voit que le pantalon serré monte ou bosse entre les jambes. Cela le trouble. Moi, c'est Jérôme. Et toi ? Émile. Puis Émile dit : Je crois que l'orage s'est arrêté. Je vais pouvoir partir. Attends, j'ai fini mon travail. On peut partir ensemble si tu veux. Je me change et j'arrive. Il va vers une porte pour aller se changer. Émile se dit que peut-être il va avoir deux amis. Jérôme est revenu en jean et blouson de cuir noir. Il est beau avec ses cheveux en désordre. Mais Émile trouve qu'il est beaucoup plus sexy en pâtissier. Ils vont sortir de l'allée. Jérôme dit, je vais direction Perrache prendre mon train. Émile lui dit, ça va. De toute façon, Émile a tout son temps puisqu'il est censé être avec Flore. En se dirigeant à Perrache, ils parlent et font un peu mieux connaissance. Émile voit que Jérôme aime les filles, mais il le trouve sympathique. Jérôme trouve Émile un peu guindé, mais le trouve gentil. Thank you. À la gare, ils décident de se revoir la semaine prochaine. Émile ne parle pas à Gérard qu'il a rencontré Jérôme car il a peur qu'il soit jaloux. Il ne parle pas de Gérard à Jérôme de peur de l'effaroucher.
Ah, c'est pas que je m'adormis, c'est pas ça.
La semaine suivante, après avoir vu Gérard, il va chercher Jérôme et l'invite au restaurant rue des Marronniers.
En crudité variée, c'est bien. Ça ira comme ça, goûte, monsieur. Et pour boire, un café, non? Oui. On peut avoir de café, s'il vous plaît? Et vous m'amenez...
Une fois sur le quai, Jérôme lui dit « Accompagne-moi jusqu'à Vienne ». Émile hésite, mais il est excité par le jean un peu collant de Jérôme, alors il accepte. Pendant qu'on part, ils entrent dans le compartiment, comme c'est tard, il n'y a personne, et le train démarre. Après le passage du contrôleur, ils se mettent à rire tous deux comme des fous. Jérôme tâte la cuisse d'Émile et lui dit « Je t'aime bien, toi !»« Moi aussi !» Émile ne peut s'empêcher de mettre la main sur sa cuisse. Jérôme se penche à son cou, l'embrasse en lui disant « Tu es mon pote, toi !» Émile a de plus en plus chaud. Jérôme se penche sur lui, qui est assis en face de lui. Alors Émile, pris par l'odeur de Jérôme, se met à lui caresser le dos et à l'embrasser violemment et de partout sur le visage. Tout à coup, Jérôme se soulève, furieux. « Pédé, j'aime pas les pédés. Salaud, je ne veux pas qu'on me touche. » Émile est stupéfait. Jérôme quitte le compartiment. Et Émile aussi. Et lui crie « Jérôme, Jérôme, pardonne-moi. » Jérôme s'éloigne. Émile est effondré. Retourne s'asseoir. Le bruit du train lui donne le vertige. Arrivé à la gare de Vienne, il n'a pas revu Jérôme. Il reprend un train pour Perrache et rentre chez ses parents, démoralisé, épuisé. Une fois rentré, la lumière s'éclaire et trouve dans le couloir en robe de chambre rouge sa mère. D'où viens-tu ? J'étais avec Fleur. Il a mal à la tête et voit tout tourner. Tu nous prends pour un imbécile. Jamais Fleur ne resterait dehors aussi tard. Tu sais l'heure qu'il est ? 5 heures. Va te coucher. Nous reparlerons de ça demain matin. Je ne veux plus que tu passes tes nuits dehors. Je me demande avec qui tu dois passer la nuit. Encore une de ces filles. Tu ferais mieux de penser à Fleur. Et elle entre dans sa chambre. Le lendemain, au petit déjeuner, qu'il prend au salon avec son père et sa mère, son père lui dit
« Tu sors trop et tu rentres à des heures impossibles. Il faut que cela change. »
« Je ne sors qu'une fois par semaine. Et encore, lorsque Fleur me le demande. »
« Fleur fait ce qu'elle veut. Mais cela me paraît bizarre qu'elle puisse avoir l'autorisation de rentrer chez elle aussi tard ou aussi tôt. Que faites-vous durant toute la nuit ensemble ?»«
Nous allons au cinéma, discutons. »«
Toi, parlez, tu ne dis jamais rien. » De toute façon, nous ne voulons plus que tu rentres à ces heures-là.
Et le petit déjeuner se passe en silence. Soirée, alors qu'il est dans sa chambre à étudier, sa mère lui dit à travers la porte
« On te demande au téléphone !»«
Merci, je vais répondre. »
Il sort de sa chambre pour aller dans le bureau de son père.
Allô, j'écoute. Je suis Jérôme. Bonjour Jérôme. Voilà, je te téléphonais, c'est pour m'excuser pour hier au soir. J'étais un peu ivre et je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Tu ne m'en veux pas ?
Non, pas du tout Jérôme. Moi aussi je suis.
Enfin, je suis très heureux que tu m'aies appelé et que tu ne sois pas fâché.
Jérôme lui dit :
On se voit après-demain si tu veux.
Oui.
Mais pas trop tard,
bon.
Tu me prends à la sortie de mon travail à 17h.
D'accord, à après-demain.
À après-demain.
Émile est content et se dit que Jérôme est un brave garçon.
Tiens, j'ai deux amis, Gérard et Jérôme.
Non, trois.
J'ai aussi Fleur. D'ailleurs, je dois la prévenir. Mon père va sûrement parler à ses parents.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.